journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Que reste-t-il de l'île d'Abaco depuis le passage de Dorian sur les Bahamas? L'ouragan a officiellement fait 50 morts pour l'instant. Les sauveteurs parlent d'un bilan beaucoup plus lourd. Nous serons sur place en direct dans un instant avec l'envoyé spécial de France Inter. Le départ d'un faucon à Washington, Donald Trump se sépare de son conseiller à la sécurité et avec lui peut-être de son agressivité vis-à-vis de l'Iran. Foot et homophobie, la Ligue va jouer la carte de la concertation aujourd'hui, loin des tacles entre la ministre des Sports et le patron de la Fédération. À la une également, ce nouveau commissaire européen chargé de la défense du mode de vie européen, l'intitulé fait grincer la gauche, mais sans doute pas votre invité de 8h20.
On va lui demander, il s'agit de l'eurodéputé et vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Dans le grand entretien donc, d'ici une vingtaine de minutes, appelez-nous dès maintenant, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, l'oncle Picsou qui casse sa tirelire à Marne-la-Vallée, Disneyland Paris s'agrandit pour créer 3 nouveaux univers et 1 millier d'emplois. Et puis un prof de maths qui rappe le théorème de Pythagore avec un vrai flow, les élèves en redemandent.
France Inter.
Quand un ouragan s'acharne 2 jours durant sur une île d'un millier de kilomètres carrés, c'était il y a 10 jours, l'île d'Abaco, la plus pauvre des Bahamas, dévastée par des vents à plus de 200 km/h. Aujourd'hui, les autorités parlent de 50 morts, 13 en deçà de ce que prévoit le consul honoraire de France sur place. Pour lui, pas de doute, le bilan dépassera les 1000 morts dans les décombres de 70 000 maisons détruites sur tout le territoire. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Florence.
Thibault, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter aux Bahamas, à Nassau, la capitale qui accueille les sinistrés de Dorian. C'est aussi de là que partent les secours. Et les secouristes que vous avez rencontrés vous parlent eux aussi d'un bilan forcément beaucoup plus lourd.
Oui, il parle de quartiers entiers qui ont été rayés de la carte, atomisés, pilonnés pendant près de 40 heures par l'ouragan Dorian. Le Mud ou Pigeon's Peak, par exemple, au nord d'Abaco, ne sont plus qu'un amas de tôles et de morceaux de bois qui dissimuleraient encore de nombreux corps. Christian Lampin, secrétaire national du Secours Populaire, était sur place dimanche dernier.
Nous, on pense qu'il y a beaucoup plus que 50 victimes. C'est un chiffre complètement impossible puisque des milliers de personnes sont restées sur place. Beaucoup de gens s'inquiètent et donc les témoignages qu'on a reçus des populations qui sont encore restées sur place, c'est plusieurs centaines de victimes sans doute, mais le comptage est très compliqué et je pense que c'est les premiers coups de bulldozer qui vont découvrir la grosse partie des corps. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a de nombreuses victimes.
John Dixa de l'ONG SOS Attitude a assisté aux premières opérations de déblaiement et notamment sur la petite route qui traverse l'île du nord au sud. Et pour cet habitué des missions humanitaires compliquées, il y a des signes qui ne trompent pas.
Il fait très chaud, il y a beaucoup d'humidité et ça sent très fort. L'odeur qui règne là-bas, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de cadavres encore sous les décombres. Les travaux continuent, on le voit sur place, on trouve des corps, ça pose un réel danger de santé sur l'île.
Un risque potentiel mais pas avéré, car selon le ministère de la Santé bahaméen, aucune épidémie ne touche en ce moment l'archipel.
Thibault Lefèvre, merci, en direct de Nassau avec Gilles Gallinaro. Avant de vous rendre, Thibault, dans l'île d'Abaco, sachez cette nuit que la légende du basket américain Michael Jordan, qui possède une résidence dans l'archipel, a décidé de faire un don $1 million aux organisations humanitaires sur place.
Il est 8h04, Florence. Son départ va-t-il adoucir la politique étrangère de Donald Trump?
John Bolton, conseiller va-t-en-guerre à la sécurité nationale, limogé hier pour cause de désaccords multiples avec le président, part-il avec sa ligne inflexible face à l'Iran notamment? C'est ce qui semble se dessiner à Washington, Grégory Phillips.
John Bolton aurait dû participer à ce point presse organisé hier après-midi à la Maison-Blanche. Mais une heure plus tôt, Donald Trump a annoncé son limogeage. Alors c'est le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui prend la parole et qui reconnaît que les divergences étaient de plus en plus profondes entre le conseiller à la sécurité nationale, le président et le reste de l'équipe. À de nombreuses reprises, nous étions en désaccord, dit Pompeo, c'est certain. Sur le Venezuela, la Corée du Nord, l'Iran, l'Afghanistan, le faucon Bolton était le partisan d'une ligne dure et militaire. Sur le dossier iranien, son départ brusque semble d'ailleurs ouvrir une nouvelle porte et adresser un message à Hassan Rouhani, car désormais, dit le secrétaire d'État américain, le président Trump a été clair, il est prêt à rencontrer les Iraniens sans conditions préalables. Donald Trump écrit sur Twitter qu'il a choisi de se séparer de Bolton, tandis que ce dernier répond et affirme que c'est lui qui démissionne. Mais ce départ n'étonne pas l'ancien patron de la CIA, qui est Mike Pompeo. Je ne suis jamais surpris, dit-il. Donald Trump nommera un nouveau conseiller à la sécurité nationale la semaine prochaine, le quatrième depuis le début de son mandat, il y a 2 ans et demi. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et réaction à Téhéran hier soir, le départ de Bolton signe l'échec de la campagne de sanctions américaines contre l'Iran, dit un conseiller du président Rouhani. Les États-Unis soutiendront-ils Benjamin Netanyahou qui annonce hier, à une semaine des élections législatives, qu'il compte annexer une partie de la Jordanie, les colonies juives de la vallée du Jourdain et du nord de la mer Morte en l'occurrence. Cette promesse enterre toutes les chances de paix, disent les Palestiniens, suivis par la Jordanie, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Quand le pape parle de schisme dans l'Église, il vise les conservateurs américains qui contestent sa légitimité et sa ligne sociale. Ceux qui me traitent de communiste sont des idéologues, dit le pape François, mais les schismes ne me font pas peur.
Il est 8h06, les Tunisiens aux urnes ce dimanche.
Premier tour de la présidentielle avancé à cause de la mort de Brigitte Kaïd-Essebsi au mois de juillet. Ce sera la deuxième fois que les Tunisiens votent pour élire leur président depuis la révolution de 2011. Mais les espoirs sont bien maigres de faire changer les choses, à l'image de la situation dans la région de Gafsa, où s'est rendue notre correspondante. C'est la zone la plus riche du pays, grâce à ses mines de phosphate. C'est aussi la plus touchée par le chômage, 25% là-bas. Reportage signé Maureen Mercier.
À Gafsa, il est plus facile de trouver des diplômés au chômage que des jeunes qui travaillent. Ingénieur en mécanique et en informatique, Iheb, les yeux tristes et rivés sur son téléphone portable, passe ses journées entouré de ses amis à tuer le temps dans les cafés.
Non, je ne voterai pas, non. On a énormément de mafias ici, tout spécialement ceux qui se disent politiciens. Ils ne veulent que le pouvoir et faire de l'argent. Quand est-ce que je trouverai enfin un travail? Quand est-ce que je pourrai fonder une famille?
Lors des premières élections nationales post-révolution en 2014, les principaux partis ont promis monts et merveilles. Depuis, la situation s'est encore dégradée. Rim est diplômée en informatique depuis 7 ans. Elle n'a jamais trouvé de travail. Ce qu'elle attend de ces élections ?
Rien.
Rien. À Gafsa, avec la démocratie, les gens ont appris à devenir cyniques.
Les partis achètent ta voix, ils te disent « tu votes pour nous et on te trouve un emploi ». Ils font tout cela. Toi, tu t'engages à non seulement voter pour eux, mais aussi à leur trouver nouveaux adhérents.
Même cette enseignante ne croit plus en la démocratie.
La liberté d'expression ne mène à rien, plutôt. Il n'y a pas un seul qui se présente maintenant aux élections présidentielles qui n'a pas des soupçons de corruption. Ça nous rend malades. On est devenu désespéré.
Gafsa, Maureen Mercier, France Inter.
Et la Tunisie avant l'élection de dimanche. Fabienne Sintès y reviendra dans Un jour dans le monde ce soir à 18h15. En France, pas de slogan ni de banderole homophobe hier au match France-Andorre, remporté 3-0 par les Bleus au Stade de France. Mais une atmosphère glaciale entre la ministre des Sports et le patron de la Fédération de foot, assis l'un à côté de l'autre après s'être affrontés sur la nécessité d'interrompre les matchs en cas de dérive homophobe dans les tribunes. La ministre est dans son rôle, a nuancé Emmanuel Macron, mais il ne faut pas édicter une règle fixe, dit le président. Aujourd'hui, la Ligue de football réunira les associations de supporters et les associations anti-discrimination en tout genre. Jérémy Falédam est coprésident de SOS Homophobie. Il s'y rendra à cette réunion dans un esprit d'ouverture.
Pour nous, c'est une réunion qui est primordiale pour instaurer un dialogue entre toutes les parties prenantes. Nous, on travaille déjà depuis plusieurs mois avec la Ligue qui s'est emparée de la question de l'homophobie dans le football. Donc, on sait son engagement sur la question. Aujourd'hui, on veut absolument dialoguer avec les supporters pour faire avancer les choses. Et notre idée, c'est pas du tout ni de culpabiliser ni de stigmatiser qui que ce soit, mais bien d'aller parler et discuter avec tout le monde pour répandre notre message le plus possible.
Ouais, et de leur côté, les supporters posent leurs conditions pour participer à cette réunion. Ils réclament un moratoire sur les sanctions collectives, c'est-à-dire les huis clos et les fermetures de tribunes. Une marche de la colère policière à Paris le 2 octobre. Tous les syndicats de police appellent à défiler pour faire éclater le malaise de la profession. 49 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. Et hier, c'est un gendarme qui a été blessé au cou lors d'un contrôle routier. Un automobiliste arrêté en grand excès de vitesse a sorti un couteau. Les collègues du gendarme blessé, dont les jours ne sont pas en danger, ont dû faire usage de leur arme. Le conducteur touché à la cheville est en garde à vue. Le mode de vie européen est-il en péril. Il a désormais son défenseur à Bruxelles. Un nouveau portefeuille pour un nouveau commissaire, le grec Margaritis Sinas. À lui, la question migratoire, notamment. L'intitulé du poste a provoqué, on l'imagine, une certaine gêne dans les rangs de la gauche européenne. Hostile à ce nouveau prisme, Philippe Lamberts, co-président du groupe Vert au Parlement.
Un commissaire à la protection du mode de vie européen, ça veut dire quoi? Ça sent très fort Viktor Orban. Protéger le mode de vie européen, alors quel mode de vie? Celui qui consomme quatre planètes, celui qui augmente les inégalités, celui qui érige la voiture en mode de transport généralisé. Enfin, je ne sais pas très bien ce qu'on veut dire et c'est quoi? C'est une manière de dire les musulmans hors d'ici? Enfin, j'en sais rien. On voit quelque part qu'entre son discours de juillet et maintenant, elle a dû faire une courbe rentrante à droite pour fidéliser les électeurs PPE qui lui a manqué au sein du Parlement européen. Ça, on le sent bien. Il y a un réalignement avec la réalité politique des choses. C'est qu'elle roule pour une majorité dont le centre de gravité est plutôt à droite qu'à gauche.
Philippe Lamberts au micro de Johanna Hostein. Pendant ce temps-là, à Paris, le gouvernement prépare un débat sur sa politique migratoire. Il aura lieu, comme tous les ans, désormais le 30 septembre à l'Assemblée. Sujet toujours polémique qu'Emmanuel Macron n'entend pas laisser à ses adversaires. Yael Gauz.
L'immigration, le président en a parlé à ses ministres en séminaire la semaine dernière. Ne laissez pas le sujet être préempté par les populistes, leur a dit en substance Emmanuel Macron. Cet été, en toute discrétion, une mission a été menée pour faire le point sur l'aide médicale d'État, près d'1 milliard d'euros de budget pour 300 000 bénéficiaires. Est-ce que tous les soins sont vraiment justifiés? Le rapport n'a pas encore été rendu au gouvernement, mais il crée déjà des remous dans la majorité. Et puis il y a cette réflexion menée pour mieux réguler le regroupement familial et ce texte qui sera examiné dans une semaine à l'Assemblée pour faciliter l'expulsion de ressortissants afghans. À Beauvau, on a conscience du risque de malentendus. Alors jusqu'au 30 septembre, Christophe Castaner et ses conseillers vont multiplier les rencontres avec les députés En Marche pour leur dire aussi que la solution passe par Bruxelles. La création hier d'un poste de commissaire à la protection du mode de vie européen n'est pas passée inaperçue. C'est exactement ce qu'on disait dans la campagne, constate un conseiller, quand Emmanuel Macron parlait d'une Europe qui protège ses frontières.
Attention, grosse grève en perspective à la RATP vendredi. On parle de lignes de métro purement et simplement fermées, d'un trafic limité aux heures de pointe sur les RER. Les prévisions de la RATP seront communiquées ce soir vers 18h. Les agents appellent à la grève contre la réforme des retraites, réforme du gouvernement qui prévoit de réformer les régimes spéciaux. Mickey, toujours plus grand à Marne-la-Vallée. Disneyland Paris a grandi son parc Disney Studios pour 2 milliards d'euros. Les visiteurs, une fois les travaux terminés, profiteront de 3 nouveaux univers. Philippe Lefebvre.
Eh bien, un château de la Reine des Neiges avec son village, son lac, ses montagnes, un campus pour les super-héros et enfin une immersion dans les décors de la Guerre des Étoiles avec un vaisseau Faucon Millennium géant. Voilà ce que pourront découvrir dans les 5 prochaines années les visiteurs du parc de Marne-la-Vallée. Ce chantier hors norme débutera l'année prochaine. Coût de l'opération 2 milliards d'euros, c'est l'un des plus gros investissements depuis l'ouverture du parc en 1992. Un investissement qui aura des répercussions en termes d'emploi de ce que l'on appelle chez Disney les cast members. Grégoire Champetier est directeur général adjoint du parc.
On a une métamorphose, une extension qui est la plus importante depuis la création du parc en 1992. Aujourd'hui, on parle de 1000 emplois directs au moins. C'est à la fois ceux qui travaillent sur les chantiers et ce sont les nouveaux cast members qui vont rentrer également sur ces landes.
Et si l'entreprise américaine reste discrète quant au calendrier précis des ouvertures de ces nouveaux univers, on estime qu'une partie d'entre eux pourrait voir le jour en 2022, année où Disneyland Paris fêtera son 30e anniversaire.
Du changement dans les marchés publics pour que les PME récupèrent davantage de contrats. Le gouvernement, selon les échos, s'apprête à relever de 25 à 40 000 euros le seuil des appels d'offres imposés à l'État et aux collectivités. Le retour de BFM, RMC Découverte et RMC Story sur les Freebox. Un accord a été trouvé entre les deux groupes sur la diffusion des chaînes pour lesquelles leur propriétaire Altice voulait être rémunéré. On ne connaît pas le contenu de cet accord. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il ne concerne pas le replay de ces chaînes. 100 à 200 grammes jetés tous les jours pour chaque plateau repas mangé dans les cantines, que ce soit dans les entreprises ou dans les écoles. C'est un gaspillage colossal auquel s'attaque une start-up, l'application 1000 Cantines, lancée il y a un an et demi. Le principe est simple, vous avez l'appli sur votre téléphone, vous réservez votre repas la veille et les cuisines s'adaptent pour produire le nécessaire, ni plus ni moins, ce qui fait évidemment réduire les déchets, Rémi Brancato.
L'application 1000 Cantines vous demande chaque soir ce que vous voulez manger le lendemain au travail ou à l'école. Démonstration en quelques clics avec Denis Olivier, le fondateur.
Allez, bavette d'aloyau grillé, je réserve.
Le matin, le cuisinier reçoit le résultat. Depuis mars au lycée Argouges à Grenoble, 900 repas chaque midi. Jean-Philippe Ménéguin adapte les quantités.
Quand je commence à 5h30, j'ai le rendu sur mon tableau de bord avec le nombre de réservations. On peut vraiment ajuster le matin en fonction des réservations.
Résultat, beaucoup moins de gaspillage.
Avant l'installation de l'application, on était à peu près à 130 grammes par élève. Toutes les quantités jetées ont vraiment baissé. Presque de moitié, on n'est plus qu'à entre 60 et 70 grammes.
Et l'avantage pour l'usager, c'est qu'il est sûr de manger ce qu'il veut, souligne Denis Olivier.
Tous ceux qui ont utilisé de la restauration collective savent qu'en milieu ou fin de service, eh bien, ils risquent de déjeuner par défaut. Et déjeuner par défaut, c'est augmenter le risque de gaspillage dans l'assiette.
L'entreprise facture 33 centimes par repas, mais les clients font des économies. Selon l'ADEME, l'agence de l'environnement, le gaspillage coûte en moyenne 68 centimes par plateau.
Quand vous savez qu'il y a 4 milliards de repas servis en France, en restauration collective, on a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas.
Et l'application a déjà permis en moyenne de réduire de 20% le gaspillage à ses clients, une clinique, des collèges ou encore bientôt un hôtel de luxe.
Un gros morceau pour les Bleus en quart de finale du mondial de basket. Ça se passe à 13h en Chine. Un gros morceau, que dis-je, le plus gros, puisque ce sont les États-Unis avec tous ces joueurs de la NBA, même sans les stars qui ne seront pas là à 13h. Les Bleus auront du mal, ils n'ont pas battu l'Amérique depuis 33 ans en basket. Enfin, les maths, Nicolas, sont-elles solubles dans le rap ? À voir le succès de Great Teacher Isaba. La réponse est oui. C'est un prof de maths dans un collège d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Il rappe ses leçons pour aider ses élèves à les réviser, à les apprendre. Théorème de Pythagore, de Thalès, probabilité. Son dernier clip, c'est les polygones. Et ça cartonne, des centaines de milliers de vues sur YouTube. Sébastien Sabiron a rencontré Great Teacher Isaba.
Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour me la jouer balèze. C'est qu'après Pythagore, y'a le théorème de Thalès.
Moi c'est Radouane Abbassi, tu peux m'appeler Great Teacher Isaba.
Qui ont un sommaire en commun, alors trouve-le.
Le théorème de Thalès en 2 minutes et sur une instru de Rof, Radouane Abbassi maîtrise la rime et la formule de maths, même si l'enseignant a conscience que ses leçons rappées ne remplaceront pas un cours.
Thalès à la base ça se fait en 2 semaines, donc 6 heures de cours. Ceux qui pensent qu'ils vont réussir à comprendre le théorème de Thalès grâce à mes 2 minutes de rap se trompent.
Passionné de rap depuis l'enfance, Radouane décide un jour de corriger un exercice sur Pythagore en rappant face à des troisièmes incrédules et enthousiastes.
Et le théorème nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux autres côtés.
Sur YouTube, son premier clip dépasse les 2,5 millions de vues. Il vient de publier sa 8e leçon.
C'est jamais une leçon nouvelle. Jamais j'aurais l'idée d'introduire une nouvelle chose par mon rap. Tant qu'on prend ça comme un outil supplémentaire qui peut aider, ça peut être très utile à pas mal d'élèves. Et un élève qui prend plaisir en classe aura plus de motivation pour travailler.
Et ces élèves, dont certains tournent dans ces clips, valident les sons du prof.
C'est la musique, ouais, c'est aussi le freestyle parce qu'il chante bien.
Pour Pythagore, ouais, ça m'a aidé un peu.
Comme il fait du rap et que tous les enfants ils aiment bien le rap, donc c'est bien. Parce que comme ça, les élèves ils s'intéressent mieux.
Et même si écrire un morceau lui prend beaucoup de temps, l'enseignant espère un jour pouvoir rapper l'intégralité du programme de maths de la 6e à la 3e.
S'il y a 3 côtés, c'est un triangle. S'il y en a 4, c'est un quadrilatère. S'il y en a 5 ou plus, ça finit par gone. Normal, c'est du grec que viennent les termes. Triangle à 3 côtés, égaux et équilatéraux.
Eh ben, on va s'y remettre,
ouais,
Nicolas,
avec grand plaisir.
En allant visionner les clips de Great Teacher Isaba sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos.